Bonjour à tous, merci d'être venus m'écouter. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Malena Fouillou, je suis réalisatrice en informatique musicale. Du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ce travail, je l'ai effectué en collaboration avec Jacques Varnier, qui est également réalisateur en informatique musicale, et Mathieu Demange, qui est ingénieur pédagogique, et tous les deux travaillent au sein du CNSMDP également. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de mon projet, je vais parler de la démarche de restauration d'une pièce. Et c'est le type de problème qu'on rencontre lorsqu'on aborde des œuvres passées, pour le coup. Et donc, plus particulièrement, je vais parler de l'histoire chronologique de cette restauration, comment on a découvert la pièce, comment on a analysé son dispositif électronique et comment on l'a remis en état de jeu pour aujourd'hui qu'elle puisse continuer à vivre. Tout est parti à la base d'un don qu'a fait le fils d'un compositeur qui s'appelle Wojtek Saudek à la médiathèque Hector Berlioz du CNSMDP en 2022. Il a fait un don d'une partition et quelques temps après, l'ex-femme du compositeur en question a informé la médiathèque de l'existence également de disquettes. De disquettes et d'une documentation qu'elle avait gardée avec elle dans un ordinateur de son ex-mari. Et elle avait à ce moment-là l'objectif d'ajouter cette pièce-là au programme d'un concert hommage au compositeur Saudek à l'Institut culturel tchèque de Paris en avril 2024. Et donc le conservatoire, sans forcément savoir à l'avance si on allait pouvoir restaurer cette pièce-là, a pris le projet en main et pour tenter de faire quelque chose avec. Donc la première chose qu'on a fait avec Jacques quand on s'est plongé dans ce projet, c'était de se demander déjà qui est ce compositeur Saudek, parce qu'on ne le connaissait pas du tout. Et il s'avère que c'est un compositeur qui est tchèque, qui est né à Prague en 1951 et qui est mort à Villejuif en 2003. C'est un compositeur qui a fait de la musique orchestrale, de la musique vocale, de la musique pour théâtre et de la musique de chambre avec un peu d'électronique. De ce qu'on a trouvé à l'IRCAM, on n'a pas trouvé grand-chose, on a juste trouvé justement cette pièce-là qui s'appelle « Les recherches d'un chien ». On a trouvé une captation sonore de sa création mondiale qui a eu lieu donc en 1990, le 16 mai 90, au Centre Pompidou, avec l'ensemble Itinéraire. Il paraît aussi qu'il aurait intégré également le cursus de l'IRCAM, mais ça, on n'a jamais eu non plus de traces de son passage. Ensuite, on en est passé au cœur du sujet. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans ces disquettes-là? Et pour ça, on a utilisé ce qu'on appelle le cryoflux, qui permet de faire l'interface entre un lecteur de disquettes et un ordinateur physique via une connectique USB, et donc d'analyser et de récupérer les données d'une disquette, même si celle-ci est en mauvais état ou très vieille. Donc là, c'était la disquette que l'ex-femme de Saudek nous a justement transmise. Et grâce à ça, comme elle était en très bon état, on a pu récupérer tous les fichiers qu'il y avait dedans. Donc vous voyez ici sur la slide qu'il y avait des patch max, mais des patch max de l'époque de la création. Donc en 90, on était sur du Max 2 Alpha 40. Et on avait... Et puis, on avait trouvé des tables ici, qui servaient certainement au patch. Et puis, on avait Chien Voice, qui était en fait un ensemble de banques de sons qui s'ouvraient avec une application DXLib, dont on n'avait aucune information sur ce type d'application. Ça devait certainement servir pour des synthétiseurs DX7. Et donc, c'est une application qui aujourd'hui n'existe plus non plus. Donc, une fois qu'on avait toutes ces informations, ces exécutables, on s'est demandé à quoi ils servaient. Et pour ça, on est revenu à ce qu'on avait à la base, c'est-à-dire une partition. Et on a commencé à l'analyser. Et il s'avère que cette partition, elle est divisée en plusieurs types d'événements. Il y a des événements, comme on voit ici, décrits avec un numéro, qui sont des événements actionnés par la détection de pitch. C'est-à-dire que lorsque... la machine qui servait à l'époque à actionner ces événements-là détectait les notes qui étaient encadrées ici dans la partition, elle les transmettait à l'ordinateur qui actionnait des machines ensuite. Et cette machine-là, qui permettait de la détection, c'était un Roland VP, VP70, et qu'on avait à disposition au conservatoire, enfin en tout cas que Mathieu Demange a retrouvé sur le bon coin pour nous. Et là à droite, ce que vous voyez, c'est un schéma qui a été fait par le compositeur lui-même, donc tout ça, ça fait partie de la documentation, qui nous montre le schéma du signal, enfin de l'information dans son patch. Donc on avait le violon, son microphone qui envoie du son vers le VP70 qui envoie ensuite du MIDI vers l'ordinateur. Ensuite, on avait des événements qui, eux, étaient nommés order, ici, à droite, qui sont des événements qui étaient déclenchés manuellement. Donc quand je dis manuellement, c'est avec une pédale MIDI ou une poire ou avec l'action d'une touche du clavier. Et on avait ensuite des événements qui étaient déclenchés avec des délais programmés. C'est-à-dire que si je ne suis pas très claire, typiquement, si je déclenche l'événement 15, et ben au bout de, là, par exemple, 15 secondes, il va se passer quelque chose, un état de paramètre va se mettre en place, et à partir de là, il y aura encore 2 secondes, et après, il va se passer autre chose, autre chose dans l'électronique. Ce que vous avez pu remarquer, du coup, dans les extraits des partitions que j'ai montrées, c'est que c'était extrêmement bien documenté. C'est assez rare de voir des partitions comme ça avec non seulement l'instrument qui était le violon ici, mais en plus toute la partie électronique, toutes les machines qui se mettaient en place à chaque mesure. Et donc, on peut voir qu'il y avait une ligne qui correspondait à un DRV2000 Korg, qui était un processeur d'effet, le Yamaha SPX92 également. Et puis on avait les TX 1 jusqu'à 8 qui font partie d'un TX 816 qui est comme plusieurs DX7 en parallèle quoi. C'est une grosse machine, qui est une grosse machine en gros pour faire de la synthèse FM. Et donc on peut voir d'ailleurs ici à droite qu'il y a tout le déroulement du patch. On a des receives, on a des variables, on a des délais, des programmes 1, volume, les lines, des trucs assez basiques dans Max. Donc on s'est penché à partir de là sur le patch Max. Et évidemment, le patch, il était en Max 2 Alpha 40, donc on ne pouvait pas l'ouvrir dans un ordinateur banal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par une machine virtuelle. Il y a un site qui s'appelle Infinite Mac qui permet d'ouvrir des machines virtuelles, enfin des Macs d'époque. Donc on en a ouvert un qui datait de l'année de la création, donc 90, et on a pu ouvrir le patch ici. Donc c'est très vieux, quoi. Pour nous, c'était assez émouvant d'ouvrir une version comme ça, et en plus de ça, on pouvait, dans la machine virtuelle, on peut le modifier, on peut ouvrir les sous-patchs, on peut sauvegarder des trucs, on peut carrément faire comme si on l'avait à disposition. Et pour l'ouvrir dans un ordinateur actuel, on est tout simplement passé par le mode texte, en fait. On a fait un copier-coller et on est tombé sur un truc comme ça, quoi. C'est vraiment le brut, copier-coller le texte, ça donne quelque chose comme ça dans Max 8. Et bon, voilà, il y a du travail à faire, quoi. Et ensuite, en ce qui concerne les sons de synthèse, comme je l'ai dit, elles étaient dans un format... Les banques de sons étaient dans un format d'une librairie qui s'appelle DXLib, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Mathieu Demange, qui a retrouvé parmi dans ce format-là du 6X. Donc il a réussi par miracle. Si vous voulez plus d'informations, il faudra lui demander à lui comment il a fait pour retrouver le 6X dans tout ce code-là. Et donc, il a pu retrouver ces banques de sons. Là, vous voyez à gauche, c'est le fameux TX-816 dont je parlais. Donc, c'est plusieurs synthés, en fait, les uns à côté des autres. Et ce qu'on retrouve dans le schéma du signal, en fait, on a évidemment le Mac via le patch Max qui commandait le synthétiseur qui ensuite envoyait du son vers les enceintes. Et enfin, il y avait la question du DRV et du SPX92. C'était des processeurs d'effet qui... excusez-moi, j'ai oublié cette slide-là. Là, vous voyez, c'est encore de la documentation, c'est toutes les banques de sons qu'on a retrouvées dans les formats 6X. Donc c'était extrêmement bien documenté, tout ça, c'est que de la documentation du compositeur. Donc voilà, ça c'est un XPX92 Yamaha que Mathieu Demange a également retrouvé pour nous, pour Jacques et moi. Et c'était des processeurs d'effets qui faisaient des effets assez communs. Enfin, on a retrouvé dans la partition, il y avait un delay, un pitch shift, un reverb, des choses assez classiques, et qui étaient commandées également par le patch max via de l'information MIDI. Donc on avait 4 axes de travail là-dessus. Une fois qu'on avait redécouvert tout ça, on avait effectivement la partition, la question du Roland VP70, on avait la question des sons de synthèse, des effets et du patch max. Pardon, j'ai oublié encore cette slide. Là, c'est encore de la documentation. Je pensais que ça pouvait vous intéresser. C'est tous les programmes de SPX92, notamment ici. On a tous les paramètres de chaque effet. Donc, ça a été minutieusement noté. Et donc, ça va être très utile pour nous, pour notre travail plus tard. Donc, pour la question de la restauration, cette fois-ci, en ce qui concerne les événements, évidemment, on avait un Roland VP à notre disposition, mais l'idée, c'est d'être indépendant de cette machine, parce que si on veut pouvoir la rejouer et que quelqu'un d'autre puisse la rejouer après, il faut qu'on soit un maximum indépendant de ces machines-là qui, aujourd'hui, n'existent plus. Donc, on a décidé de rendre tous les événements manuels. Parce que avoir des événements qui sont déclenchés par détection de notes, même si on a des objets max qui le font, ça reste très contraignant pour le musicien. Il faut qu'il joue d'une certaine manière et ça lui empêche d'être libre dans sa façon d'interpréter la pièce. Et puis, c'était mieux pour nous, on trouvait plus cohérent d'avoir un seul type d'événement. Et donc, tout ce qui était. Enfin, on s'est rendu. On a tout changé et puis donc il y avait une part d'interprétation, c'est-à-dire que nous, en suivant les notes du compositeur, de ce qu'on a compris, il voulait que le violoniste, le musicien, soit maître de ce qu'il faisait. Donc on s'est dit, si c'est à lui de le faire manuellement, ça lui donne justement toute la liberté dont il a besoin. Et pour nous, c'est plus pratique d'un point de vue juste quand on est sur scène ou quand on répète, c'est beaucoup plus simple d'avoir ce type de déclenchement. Ça, c'est un autre exemple qui pourrait peut-être vous intéresser de partition. Il y a des endroits où c'était assez clair de savoir à quel moment il fallait déclencher les événements et d'autres où on ne sait pas trop à quel moment il faut. Donc ça fait partie des questions d'interprétation quand on fait de l'électronique. Et donc je pensais que ça pouvait être un détail intéressant. En ce qui concerne ensuite les sons de synthèse, on a utilisé, maintenant qu'on avait du 6X, on a utilisé un synthétiseur virtuel pour les mêmes raisons que le Roland VP. Avoir un TX-816, c'était pas très pratique, ça prend beaucoup de place. Donc on a tout rapatrié dans Max. Et là, on a pu pour la première fois écouter les sons de synthèse, parce qu'on les avait jamais écoutés avant. Donc je peux vous faire écouter un extrait si j'ai du son. Moi, j'ai pas vécu à cette époque-là, mais je sais que Jacques, quand il a écouté ça, il était très ému. Il m'a dit, on sent que la pièce a bien 35 ans et que c'était un grand retour en arrière. Et enfin, en ce qui concerne les effets temps réel, on avait beaucoup d'informations, donc on a tout rapatrié également dans Max avec des effets, des objets assez classiques. Et étant donné qu'en plus on avait la chance d'avoir un SPX92 à notre disposition, on pouvait comparer les sons et puis peut-être parfois modifier certains paramètres pour être pour refaire à peu près le même rendu sonore à la fin, ce qui n'était pas forcément évident, parce que nous, à la base, on avait juste une captation sonore de 1990, et qui n'était pas forcément très bonne non plus, parce qu'en 90, je ne suis pas sûre qu'on faisait des bons... En plein concert, on faisait des enregistrements de grande qualité. Enfin, en tout cas, la captation qu'on avait n'était pas de grande qualité, pardon. La captation qu'on avait n'était pas de grande qualité. C'est plutôt ça, excusez-moi. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et on a pu rejouer la pièce comme prévu en avril 2024 avec Jacques. Ça a été un moment très émouvant pour la famille et pour nous. Et je trouvais que c'était un sujet qui pouvait peut-être vous intéresser, parce que c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude en Max. On est plutôt sur la restauration, on est sur l'interprétation, comme j'en avais parlé hier. Et pardon, j'ai oublié des slides, je ne suis pas très à jour là-dessus. Le DRV, on l'a viré, parce qu'en fait, c'était... De ce qu'on a compris des notes, c'était surtout pour faire une sorte de réverbération de diffusion. Et donc, on a, au lieu de le mettre directement dans le patch, on a préféré le mettre à la charge de l'ingé son pour qu'il puisse adapter cette réverb en fonction de la salle, en fonction du contexte, et pas directement le mettre dans Max. Et ça aurait été peut-être plus compliqué pour nous d'adapter à chaque fois en fonction du lieu. Donc, pour revenir à ce que je disais... Pardon, le patch, on l'a aussi refait, évidemment, pour qu'il soit plus simple d'utilisation pour nous et puis pour d'autres réalisateurs en informatique musicale qui voudraient rejouer la pièce. Donc on l'a rendu plus présentable, on a expliqué comment il marche, on a ajouté une simulation, des tests de pédales, tout ça pour rendre le travail le plus clair et le plus simple possible pour les gens qui utiliseraient après, voire même des gens qui ne connaissent pas forcément Max. Il y a des musiciens parfois qui jouent, qui veulent jouer des pièces tout seuls, et donc il faut qu'ils comprennent vite comment le patch Max marche, sans aller en profondeur dedans. Donc rendre quelque chose d'assez simple. Et bon, pour revenir à ce que je disais, excusez-moi, je trouvais que c'était intéressant comme projet, parce que ça faisait écho avec la table ronde qu'on a eue hier sur la question de la pérennité des œuvres. Et nous, en tant qu'interprètes, on est très sensibilisés à ça, parce que quand on joue des pièces, c'est important qu'elles puissent être facilement, qu'on n'ait pas à galérer et que ces pièces ne se perdent pas. Et nous, on a eu beaucoup de chance sur ce projet-là de pouvoir tout retrouver, parce que c'était pas forcément évident. Et on a aussi, pour discuter avec des compositeurs comme Philippe Manoury, que je cite ici, pour certains compositeurs, c'est une vraie problématique pour eux, enfin, ils sont inquiets. C'est que Philippe Manoury a un problème en ce moment avec sa pièce Tensio, à cause d'un problème dans le patch Max, un problème sur un modèle physique de cordes. Je sais que Martin Matalon en ce moment travaille avec Mathéo pour mettre à jour des patchs. Je sais que Yann Maresch m'a dit plusieurs fois qu'il souhaitait vraiment passer sa pièce Metalix pour trompette et électronique en Pure Data. Il n'y a pas... Comment ? Il n'y a pas forcément de solution, mais en tout cas, c'est vous dire l'inquiétude que les compositeurs ont pour leurs œuvres. Donc voilà, je pensais que ça pouvait faire réfléchir à tout ça, ou même faire débattre. Voilà.
Question. Bravo pour tout ce travail. Tu as pu découvrir en quoi ça consiste de maintenir des œuvres. Là, c'était un peu presque extrême. J'avais une question sur le suivi de pitch. J'ai pas bien saisi ce qui, au départ, la création, faisait le suivi de hauteur.
Pour la détection
Pour la détection pour les événements. Suivi de partition.
Je sais pas si je peux. Je vais revenir dessus. En fait, il y avait un... Attendez, je reviens sur la slide, peut-être avec celui-là.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Voice processor.
En fait, il y avait, pour ce qui est de la détection de pitch, en fait, il y avait le son du microphone qui rentrait dans cette machine. Uh-huh. Et lui détectait, enfin, il y a un algorithme qui permet de détecter quelle note a été jouée par le violon. Et ensuite, il envoyait...
Une note MIDI.
En MIDI, voilà, il l'envoyait en MIDI dans le patch max, parce qu'à l'époque, comme c'était pas MSP, c'était que du MIDI dans le max 2. Et donc, il recevait des informations MIDI de ce qui a été, quelle note a été détectée. Et ensuite, en fonction de le suivi des notes, enfin, quelle note a été faite l'une après l'autre, enfin, parfois c'est par groupe de trois. S'il joue ces trois notes à la suite,
bon.
Il va enclencher un truc dans le patch et qui va commander les machines ensuite. C'était plutôt ça, je ne sais pas si j'ai été clair.
D'accord. Très clair. Et une deuxième question, pardon. Le portage des algos FM depuis le Yamaha d'origine vers le DX7, non, ce n'était pas un DX7 que vous avez utilisé. C'était un TX.
Oui, nous, on ne l'avait pas à disposition, le TX-816. On avait juste on avait un DX7 au Conservatoire de Paris, mais on n'en avait pas 8. Mais nous, on avait juste les fichiers, les banques de sons. Et donc, une fois qu'on les avait en 6X, on les a juste envoyés dans un FM8, en fait.
Ça marchait.
Ça, oui, si on envoie du 6X dans le FMI, ça
bah là,
ça
marche. Tu tiens un scoop, tu peux le vendre très cher.
Enfin, et voilà. Mais après, en ce qui concerne le passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le fichier qu'on avait en DXLive, c'est pas moi qui m'en suis chargé, c'est plutôt Mathieu Demange. Si vous voulez plus d'informations pour récupérer des vieilles banques de sons, c'est plutôt à lui qu'il faut s'adresser, quoi.
Ouais, s'il y a le temps, une petite question en plus sur la détection de pitch. Moi, je ne me suis jamais servi d'un VP70, mais je sais qu'à l'heure actuelle, la détection de pitch reste encore un truc qui est instable, quoi, et ça le sera peut-être d'ailleurs toujours, vu ce que c'est psychoacoustique. Mais du coup, je me demandais quelle part ça pouvait jouer dans la pièce à l'époque. Si vous avez un enregistrement d'origine, est-ce que ça renvoyait vraiment juste... de ce que vous avez entendu sur l'enregistrement, les notes qui étaient effectivement jouées, ou est-ce qu'il y avait ce truc qu'on trouve dans beaucoup de détections de pitch, des oscillations, des instabilités, qui faisaient peut-être partie aussi de l'écriture de la pièce ?
Nous, avec la captation sonore qu'on avait, on ne peut pas trop savoir comment c'était fait. Nous, on a essayé d'utiliser le Roland VP par curiosité, et ça ne marchait pas très bien. Au début, ça marche bien, et puis après, au bout de 4-5 événements, c'est très très instable, donc on n'a aucune idée. On s'est posé la question avec Jacques, comment ils ont fait à l'époque, parce que peut-être qu'ils ont triché, parfois ils notent des choses et puis en fait ils ne les font pas le jour de la création.
C'est généralement ce qu'on finit par faire avec les détections pitch.
Parfois ils disent des choses dans les...
Alors oui, on triche souvent, voire à tout déclencher les 700 Q d'une pièce de Boulez à la main, en temps et en heure, donc c'est rigolo. Mais faut voir que quand ça marche, ça marche, ça marche. C'était Miller Puckett qui avait développé cet objet pitch tracking, pitch tilde, je ne sais plus comment ça s'appelait. Puis, non, PT, il adorait. PT. Voilà. Et pour avoir joué Jupiter, qui doit être la première pièce avec la station d'informatique musicale de l'IRCAM, les Next, etc., avec suivi de détection de hauteur, ça marche vraiment pas mal. Sauf quand ça marche pas.
Oui, par mesure de sécurité aussi. Ouais. C'est des questions de mesure de sécurité. On préfère on a fait le choix de le faire manuellement. Parce que si jamais au milieu de la pièce ça marche plus, qu'on est obligé de passer en mode manuel, c'est tout de suite plus compliqué.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi la mémoire de l'ingénierie sonore, qui n'est souvent pas trop documentée, qui l'est techniquement. Mais documenter un suivi, par exemple, c'est dire, bah voilà, il faut que le micro il soit comme ça, le niveau est comme ça, il y a un compresseur comme ça, il y a une EQ comme ça pour que ça marche. Sinon, on peut avoir les 700 Q qui passent d'un coup, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. C'est très rigolo.
Et là, pour le coup, il n'y avait pas énormément de documentation. Il a beaucoup documenté, mais cette partie-là, il ne l'a pas trop documenté, étrangement.
Moi, ça m'amuse parce que je dois être le plus vieux ici. Donc j'ai eu toutes ces machines et j'ai travaillé avec le VP, bien sûr, qui était une merveilleuse machine. Alors, il fallait juste un peu filtrer. C'est sûr qu'avec les attaques bruitées du violon, il fallait attendre quelques millisecondes avant d'avoir la hauteur du son, mais ça marchait parfaitement. La seule chose, c'était que c'était de la musique tempérée parce que c'était du midi. Mais alors que j'ai vu que sur la partition, visiblement, il jouait des quarts de ton. Donc, je ne sais pas exactement, on n'a pas entendu la musique, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait, mais forcément, il devait y avoir un violon jouant du quart de ton d'un côté et puis de l'électronique. Ou alors, comment il compensait, mais en fait, on n'a pas entendu la musique. Mais je peux témoigner quand même que le VP marchait pas mal, mais il fallait effectivement parfaitement bien placer les micros et qu'il ne pouvait pas balancer 700 à toute vitesse parce que ça allait très lentement. Mais par contre, ça marchait très bien, comme les TX marchaient très bien aussi. Alors, c'était une époque où on enregistrait bien en concert aussi quand même.
Non, excusez-moi.
Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a peut-être le temps pour une dernière rapide question, oui.
Brièvement, moi je trouve ça super, super intéressant, mais j'ai l'impression que c'est une problématique qui n'existe pas qu'en musique, elle existe aussi en art contemporain, art plastique, connaissant une personne qui fait de la rénovation d'œuvres, elle me dit que toute la partie 20e siècle, c'est très compliqué à gérer, pour tout un tas de raisons, surtout des raisons techniques. Et certainement que ça pour, en ce qui nous concerne dans la musique électroacoustique, ça veut dire qu'effectivement, on voit que cette pièce, elle est super documentée au niveau de la partition. Il y a des gens qui font des copies d'écran, il y a des gens qui documentent d'une autre manière et tout ça. Et ça veut dire que c'est au final jamais assez parce que nous-mêmes, je pense que c'est arrivé à plein de gens ici, nous-mêmes on réouvre un patch qu'on a fait il y a 5 ans, peut-être même il y a 2 ans, et on se demande comment ça pouvait marcher, quoi. Et il nous faut une ou deux heures alors que c'est nous qui l'avons fait. Et la documentation, on a tendance à le négliger dans le contexte de la création et pourtant c'est une part très importante.
Je rajouterais que la transmission orale est tout aussi importante aujourd'hui, même quand on a toutes les docs. C'est très important que toute la musique s'est toujours transmise de cette manière-là, bien sûr.
Oui, par exemple, en parlant de transmission orale, je sais que le conservatoire avait le projet cette année, par exemple, d'aller interviewer pour un documentaire Andrew Garzo, qui a travaillé avec Boulez, pour lui poser des questions sur le travail de Boulez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui le droit de changer, ou qu'est-ce qu'on a le droit de... À quel moment on a des libertés en fonction des technologies qui évoluent, parce que du coup, il y a des choses où on peut interpréter différemment, il y a des choses qu'il aurait voulu... Je sais, enfin bref, il y a des questions, on a pas mal de questions en tant qu'un réalisateur en informatique musicale à lui poser sur qu'est-ce qu'on... Où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut interpréter, et qu'est-ce qu'on doit suivre à la lettre ce qu'il a voulu.
Faire des collectages.